Bienvenue dans Info Campus. J'accueille monsieur Pierre Perrault. Vous êtes le gérant de Ingeco Énergie et vice-président de Interpro Génergue. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs.
Ingeco Énergie est un bureau de conseil et d'études, c'est bien cela ?
Alors, Ingeco Énergie, effectivement, c'est un bureau d'études, conseil et formation autour de la transition énergétique en Guyane et puis de plus en plus vers les Antilles et puis une perspective sur l'océan Indien. Donc, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 13 ans maintenant, qui travaille sur ces questions d'efficacité énergétique, de qualité environnementale du bâtiment, des aménagements, et puis des énergies renouvelables, qui est un thème de plus en plus approprié par les Guyanais.
Absolument. Alors, dans le développement durable, mais dans quel domaine, puisque c'est vaste ?
Alors, on travaille vraiment autour de l'énergie et indirectement, enfin, du climat, l'impact que l'énergie peut avoir sur le changement climatique. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises, les collectivités, les services de l'État autour de cette transition énergétique, c'est-à-dire mieux utiliser l'énergie et l'énergie qu'on utilise, qu'elle soit de plus en plus renouvelable et d'arriver, que ce soit sur le transport ou sur l'électricité bâtiment propre, vers une autonomie énergétique du territoire.
Concrètement, à réduire la climatisation, également développer la partie thermique.
C'est ça, c'est vraiment un travail. La démarche globale, c'est vraiment de limiter au maximum les consommations en augmentant le confort. Il ne faut pas du tout confondre efficacité énergétique et retour à la bougie. Au contraire, c'est isoler les bâtiments pour qu'ils prennent moins le chaud, si vous voulez, équiper en climatisation du mieux qu'on peut. Et une fois qu'on a vraiment traité, qu'on a conçu ou rénové des bâtiments thermiquement efficaces, énergétiquement efficaces, on a de plus en plus affaire à de l'autoconsommation photovoltaïque notamment, pour produire une partie des besoins du bâtiment en énergie renouvelable.
Vous intervenez aussi bien sur le neuf que sur l'ancien ?
C'est ça, on intervient aussi bien sur le neuf que sur l'ancien.
L'approche est différente ?
L'approche est différente. Non, la méthodologie globale est toujours la même, c'est-à-dire travailler sur effectivement l'enveloppe du bâtiment et les systèmes énergétiques associés et l'usage qu'on va en faire. Concrètement, la thermique du bâtiment, ça va être protéger les vitres du soleil, avoir des parois isolées pour éviter d'avoir une surchauffe du bâtiment, avoir des équipements performants. Et un usage performant du bâtiment, typiquement pas laisser les clims allumés la nuit, donc pouvoir mettre des systèmes automatiques pour réduire ses besoins. Et puis une fois qu'on a réduit ses besoins, c'est vrai pour le neuf, c'est vrai aussi pour la rénovation, on peut y adjoindre un système de photovoltaïque en autoconsommation. Je prendrai comme exemple, en termes de référence, nos deux grandes belles références sont la création de l'établissement public foncier d'aménagement de la Guyane, en haut de la chaumière, en haut du lycée de Balata, qui est le premier bâtiment énergie positive de Guyane fait par le PFA, Amarante Architecture pour le PFA, pardon.
Qu'est-ce que c'est le PFA ?
L'établissement public foncier de l'aménagement de la Guyane. Donc c'est vraiment l'établissement public de Guyane qui fait la planification foncière du territoire pour aménager plus de terrain puis pour subvenir aux besoins, que ce soit des logements et du tertiaire et de l'industrie. Et en face de ce bâtiment-là, il y a la CACL, donc un bâtiment qui a un peu plus d'une dizaine d'années, qui vient d'être rénové entièrement, donc la communauté d'agglo de l'île de Cayenne, sur lequel on a mené un travail de rénovation énergétique, donc avec le cabinet Abriba et un certain nombre de confrères ingénieurs, pour réduire les consommations. Donc concrètement, on revient toujours sur les mêmes choses, protéger le bâtiment du soleil. On ne réinvente rien, ça peut paraître un peu compliqué, mais finalement on refait des maisons créoles. On reprend les principes des maisons créoles qui avaient des larges débords de toiture à chaque niveau, l'objectif étant de pas faire rentrer la chaleur dans le bâtiment pour après le climatiser. Avoir des parois qui soient par exemple en briques ou en tout cas bien isolé, utiliser le maximum de matériaux locaux, donc la brique, le bois, etc. Donc c'est ce qu'on a fait un peu sur ce bâtiment en rénovation énergétique, donc l'isoler par l'extérieur, l'ensemble du bâtiment, changer l'ensemble des équipements, l'éclairage, la climatisation. Là on est sur des bureaux, donc c'est vrai que sur les bureaux, pour revenir sur votre intervention au tout début, c'est souvent des consommations autour de 60-70% liés à la climatisation. Mmh. Donc l'objectif, c'est d'optimiser ces systèmes de climatisation. Et puis, pour ce qui est au niveau de la chaumière, là, pour la communauté d'agglo, on a mis en place du photovoltaïque en toiture et du photovoltaïque en ombrière de parking qui permet d'alimenter le bâtiment à plus de 50% en photovoltaïque. Donc il est autosuffisant. On a réduit la facture de 50% avec le photovoltaïque. Et on a mis en place des bornes de recharge de véhicules électriques qui permettent aussi de recharger les véhicules électriques à partir d'une énergie propre. Donc c'est vraiment cette vision globale d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, et puis de petit à petit de passer à la mobilité électrique pour permettre aux collectivités de limiter leur impact énergétique, leurs factures, et également à le bilan carbone, on va dire, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'usage du bâtiment. Il faut bien comprendre que la question du transport est prédominante en termes d'indépendance énergétique en Guyane. Hein, 60% de l'énergie consommée en Guyane est liée à du transport, de la mobilité, donc les véhicules, les camions, les bus, etc. Donc il faut aussi qu'on travaille sur ce volet-là de mobilité durable. Mmh.
Ah, oui. Est-ce que l'État accompagne les particuliers, les entreprises par des aides dans leur volonté de réduire leur empreinte carbone sur l'environnement?
Alors il y a beaucoup de dispositifs qui sont existants, que je pense qu'au niveau des particuliers, je pense que l'ensemble des Guyanais, enfin la plupart des Guyanais connaissent les dispositifs d'aide pour l'installation de chauffe-eau solaire, d'isolation des maisons à quelques euros ou quelques centaines d'euros, changement des climatisations, l'éclairage performant, on est passé sur des lampes incandescentes, petit à petit il y a des lampes LBC, puis des LED. Donc pour une même lumière, finalement, on a besoin de moins d'énergie pour éclairer un bâtiment. Donc au niveau des particuliers, je pense que c'est assez connu. Au niveau des professionnels, il y a énormément de dispositifs qui sont disponibles. Donc notre boulot, nous, notre travail de bureau d'études conseil, c'est vraiment d'accompagner en termes d'ingénierie, sur le volet vraiment purement énergétique, mais également d'ingénierie financière pour monter les dossiers de financement pour que les collectivités et les entreprises puissent bénéficier des aides, que ce soit des aides européennes, du FEDER, des aides via le plan de relance actuellement qui est en cours de déploiement, et l'ensemble des dispositifs, que ça peut être du rachat de l'électricité par EDF, etc. Il y a des dispositifs, mais il faut savoir les coordonner, les mettre en œuvre pour pouvoir arriver à un résultat qui soit le plus cohérent possible.
Donc cela passe par un audit, puis un prévisionnel.
Voilà, ben on reprend
une étude financière.
Voilà, c'est une étude de faisabilité, des diagnostics énergétiques pour vraiment faire le point sur les consommations énergétiques d'un patrimoine ou d'un patrimoine d'une collectivité pour dresser un peu l'état des lieux des consommations et derrière décliner un plan d'action court terme, moyen terme, long terme d'efficacité. Donc concrètement, ça peut être le remplacement progressif des clims, le remplacement progressif des véhicules par des véhicules électriques, l'équipement des bâtiments par du solaire photovoltaïque en autoconsommation, tout ça ayant pour objet de réduire les factures énergétiques. Parce qu'on le voit, nous, dans notre travail, on a de plus en plus d'entreprises qui commencent à avoir du mal, des collectivités également, à subir un peu l'augmentation qu'on voit d'année en année des factures EDF. Donc là, le gouvernement a limité les hausses en janvier de 4% par an, mais pour des collectivités ou des industriels qui ont des grosses factures énergétiques, 4% d'augmentation tous les 6 mois, ça commence à devenir difficile. Absolument. Donc ils sont obligés, si vous voulez, au-delà de l'aspect environnemental de la démarche, de trouver des moyens pour optimiser leur consommation. Donc on a parlé un peu du tertiaire, mais c'est vrai aussi sur l'industrie. Donc on a eu deux belles opérations sur la Solam, donc l'usine de yaourt à la Carapa et Délices de Guyane, donc sur la transformation de produits agroalimentaires, sur lequel, par exemple sur Délices de Guyane, on a réduit de 50% les consommations énergétiques du bâtiment grâce au photovoltaïque via un financement européen. Donc on a des taux de rentabilité du système photovoltaïque qui est de l'ordre de 2 à 3 ans. Avec une durée de vie garantie de 25 ans. Donc c'est tout bénéfique pour l'entreprise. Finalement, on améliore la compétitivité des entreprises qui font face de plus en plus à une augmentation de leurs charges liées à l'électricité et au carburant. D'ailleurs, je pense que l'ensemble des Guyanais Bien sûr. Sont tout à fait conscients que c'est vrai sur le volet électrique, mais c'est également vrai sur le volet
thermique,
carburant, carburant lié à leur véhicule. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir vraiment une démarche globale, de les accompagner de l'étude de faisabilité, enfin, du diagnostic, jusqu'à la réalisation, donc la consultation des entreprises pour réalisation des travaux qui auront été définis dans le plan d'action, qu'on définit en bonne intelligence avec le client en fonction de ses objectifs, ses opportunités, ses possibilités de financement, et derrière jusqu'à la réception pour livrer des opérations qui amènent à des résultats concrets, tangibles. Et voilà, encore une fois, on est vraiment sur de l'optimisation des ressources. Mmh. On a des collectivités comme la CACL qui ont des dépenses, un parc de véhicules et un parc de bâtiments qui est assez important. Il faut vraiment les accompagner pour prioriser et définir les actions qui auront le meilleur temps de retour sur investissement et aller chercher les subventions les plus efficaces.
Oui, à vous entendre, M. Pierre Perrault, votre action est tout à fait vertueuse et économiquement, ça permet de gagner un pouvoir d'achat. Mais pour autant, tout le monde ne franchit pas le pas. Toutes les entreprises de Guyane sont loin de franchir le pas. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous? C'est une question de pédagogie, de communication.
Alors c'est vrai que c'est un métier, nous on est là depuis 13 ans, mais c'est vrai que c'est un métier qui se développe, mais qui commence, on va dire, à plus se généraliser. La plupart des chefs d'entreprise, qu'ils soient de l'industrie ou du tertiaire ou autre, viennent souvent nous voir pour des problèmes de factures d'EDF qui sont de plus en plus élevées. Pour reprendre l'exemple d'Élise de Guyane, quand elle sort un pot de toco, je vais peut-être pas me faire de pub, je sais pas si j'ai le droit, mais un produit guyanais.
Partenaire, donc.
Effectivement, la part électrique augmente de plus en plus, donc les charges liées à la production de chaque produit augmentent. Donc l'objectif, c'est vraiment de effectivement, c'est quelque chose qui commence à arriver, mais on le voit de plus en plus, une volonté de plus en plus forte par les entreprises, à la fois de s'inscrire dans une démarche de développement durable, parce qu'ils ont aussi des objectifs en interne. D'amélioration RSE par exemple, de réduction un peu de leur impact et de rentrer vraiment dans une démarche de développement durable. Il n'y a pas énormément de connaissances et de compétences qui sont bien suffisamment répandues à l'échelle du territoire, mais on y arrive de plus en plus avec les partenaires, notamment l'agence de l'État, donc l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, la CTG qui est également pilote en fait de cette politique de transition énergétique avec l'État. Et l'objectif, c'est d'améliorer vraiment la qualité environnementale et les factures associées. Voilà.
Donc il n'y a aucune raison qui puisse justifier qu'on n'aille pas vers la transition énergétique.
On va y arriver de plus en plus, il faut bien comprendre. C'est pourquoi, par exemple, l'État met en place des dispositifs d'aide via, par exemple, les aides EDF ou les aides européennes ou les aides purement d'État. Via des appels d'offres, c'est vraiment que l'énergie en Guyane coûte 4 à 5 fois plus cher que ce que nous on la paye. Il y a une péréquation tarifaire, ce qui fait que vous habitiez à Camopi, à Cayenne ou à Paris, à Cherbourg, hasard, mais oui. Tous les Français payent le prix de l'électricité au même tarif, sauf qu'en Guyane, ça coûte, et c'est vrai dans les autres DOM, ça coûte beaucoup plus cher de produire que ce qui est revendu. Donc toutes les actions d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable sur le territoire sont rentables pour le territoire, pour le porte-monnaie des Guyanais et des Français plus largement. Pour donner un petit ordre de grandeur, la dette des territoires d'outre-mer sur la production électrique, c'est plus d'un milliard d'euros par an. Et en Guyane, on est autour de 150 millions d'euros par an de dette entre la production EDF, ce que ça coûte à l'opérateur énergétique du territoire, et ce que les Guyanais, que ce soit particuliers, professionnels, payent. Donc chaque opération est rentable à l'échelle, sur une échelle globale. Donc on a tout intérêt collectivement à faire un effort par rapport à cette question énergétique.
Est-ce qu'il y a un aspect collaboratif dans votre structure ? Au niveau de Engeco Énergie, est-ce que vous travaillez avec avec d'autres structures sur le territoire qui vous complètent sur des champs de compétences, sur des expertises.
Alors tout à fait. On est les entreprises qui travaillent autour de la transition énergétique du territoire sont regroupées autour d'une interprofession qui s'appelle le GENER, le Groupement des entreprises en énergie renouvelable de Guyane. Donc c'est l'ensemble des entreprises de Guyane qui travaillent autour de la transition énergétique. Donc ça peut être des installateurs de photovoltaïque, de panneaux solaires, d'eau chaude solaire thermique, donc les ballons d'eau chaude qu'on peut voir sur les logements, mais c'est aussi vrai sur le milieu hôtelier, milieu touristique, etc.
Est-ce qu'il peut y avoir également des installateurs de climatiseurs ?
Tout à fait, les installateurs de climatiseurs, les poseurs d'isolants. Donc j'invite, s'il y en a parmi les auditeurs, à nous rejoindre autour de l'Interpro pour qu'on soit force de proposition et force d'action auprès des partenaires et donc la CTG, l'État et l'ensemble des partenaires étatiques, on va dire, les collectivités, pour les accompagner au mieux vers cette transition. L'objectif étant l'indépendance énergétique à l'horizon 2030, donc ça c'est une loi qui a été votée au niveau local, au niveau national et au niveau européen pour rendre la Guyane autonome en énergie et plus être dépendant d'importation de carburant.
Et le fait que, en tout cas, on suivait tous cette affaire autour de la centrale du Larivot qui va pouvoir redémarrer. Pour vous, c'est une bonne nouvelle ?
Alors, je ne me prononcerai pas sur le fait que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est amené à être un moyen de secours. Actuellement, pour faire très simple, hein, 70% de l'énergie en Guyane est fabriquée à partir d'énergie renouvelable. Donc, on est champion de France et de loin sur la production d'énergie renouvelable. Donc, il nous reste 30% à faire qui sont en train d'être comblés petit à petit par différents moyens. Donc là, c'est plus mes confrères producteurs d'énergie qui mettent en place des usines biomasse, des usines solaires, des usines à terme éolien pour combler finalement ces 30% d'énergie électrique qui sont fabriquées à partir de combustibles fossiles actuellement à Dégradécane. Dégradécane, c'est une usine qui a plusieurs dizaines d'années et qui est depuis plus d'une dizaine d'années complètement, on va dire, hors norme et que EDF parvient malgré tout à maintenir un peu à flot, mais effectivement...
Jusqu'à quelques mois.
La vraie question, c'est pas forcément de savoir s'il faut ou pas le Larivot, hein, c'est pas à moi d'en décider, mais pour l'instant c'est encore sous le coup d'une décision du Conseil d'État. Il y en a une première, il y en aura une seconde au milieu d'année, pour une reprise des travaux de construction de la centrale électrique du Larivot. Il faut bien comprendre que la centrale électrique du Larivot ne sera amenée à faire que du secours. Fonctionner quelques minutes, quelques heures par jour pour combler d'éventuels problèmes sur le réseau. Mais en 2030, en tout cas, tous les projets sont là pour le faire, que ce soit biomasse, hydroélectrique au fil de l'eau, donc sans avoir un problème de barrage, impacter le foncier, l'éolien, etc., pour arriver à... Voilà. Et on aurait un moyen thermique de secours pour combler les problèmes qu'il pourrait y avoir. Mais l'objectif du site du Larivot, ce n'est pas de produire de l'énergie de manière significative à l'échelle de la Guyane.
Ouais. Alors pour revenir à Ingeco Énergie, dans la partie énergie renouvelable, concrètement, quelles sont les prestations que vous proposez ?
Alors nous, on est concrètement sur le volet solaire photovoltaïque, donc c'est les plaques bleues là qu'on certains peuvent voir. On a vu un développement dans les années 2010 où nous, on a participé à ce développement-là autour de centrales photovoltaïques avec une revente sur le réseau EDF. Et là, on accompagne de plus en plus les entreprises vers de l'autoconsommation, enfin un mix de tout ça, à la fois de l'autoconsommation pour réduire les factures éventuellement des projets d'injection sur le réseau. Donc nous, on intervient en tant que bureau d'études, maître d'œuvre ou assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc on assiste les maîtres d'ouvrage pour réussir à mener à bien ces projets-là. Et comme je le rappelais, la question de recherche de financement est vraiment importante et cruciale pour le bon développement des projets. Nous, on n'est pas là, on ne vend pas ou on n'installe pas de panneaux solaires. Moi, j'ai pas de personnel qui installe des panneaux solaires sur les toits. On va faire appel on va consulter des entreprises, mettre en concurrence les entreprises guyanaises pour avoir l'offre la plus intéressante pour le client, donc que ce soit public ou privé.
D'accord. Et dans la partie thermique et énergétique du bâtiment, Donc là, ce sera quoi comme prestation ?
Alors là, c'est des prestations d'optimisation de thermique du bâtiment, donc bien orienter le bâtiment pour que les bâtiments respirent, ou si on est en climatisation, bien les protéger du soleil, parce que quand on voit un certain nombre de constructions neuves, parce que à notre grand désarroi, on n'a pas de réglementation thermique sur le volet tertiaire en Guyane, donc on peut construire des bâtiments de bureaux complètement vitrés, on en voit quelques-uns qui poussent. Pour nous, thermiciens, c'est des fours, hein. On climatise un four au final, donc notre objectif, c'est d'accompagner nos clients sur une bonne prise en compte de ces questions de thermique du bâtiment, et encore une fois, on n'invente rien, on reproduit un peu des schémas qui avaient déjà été bien compris par nos gangans, si je peux me permettre. Il y a plus d'une centaine d'années, donc c'est-à-dire se protéger du soleil et bien ventiler les bâtiments pour avoir des bâtiments confortables, parce que même dans les bâtiments climatisés, on arrive quand nous on est en phase diagnostique sur le terrain, on a des bâtiments de bureaux où les usagers, les employés sont dans un inconfort thermique malgré la climatisation, parce qu'ils ont un mur derrière qui les chauffe en permanence, donc l'objectif c'est aussi de... Ou alors qu'ils ont le soleil directement sur les écrans d'ordinateur, ça on le voit régulièrement, et ça c'est vraiment dommageable en termes de santé. Donc augmenter le confort tout en réduisant les consommations énergétiques.
Et la haute qualité environnementale, c'est un label ?
Alors on a localement, avec tous les partenaires, mis en place depuis une quinzaine d'années, la qualité environnementale amazonienne, la QEA. C'est l'équivalent de la haute qualité environnementale en métropole, mais adaptée à la Guyane. Qu'est-ce que c'est la qualité environnementale ? C'est vraiment de s'intéresser au-delà de la question énergétique. C'est vraiment de s'intéresser, donc il y a 14 cibles, hein, je ne vais pas les citer, mais ça traite donc de l'énergie, mais également de l'eau, d'une bonne intégration du bâtiment par rapport à son environnement pour vraiment prioriser les vues vers l'extérieur, utiliser au maximum des matériaux locaux. Donc je les ai cités, mais on a quand même du bois en Guyane, on a une filière bois qui est, même si elle souffre en ce moment, on travaille vraiment de concert avec eux pour pouvoir faire des bâtiments au maximum avec des matériaux locaux. Donc on a une usine maintenant de briques de terre crue, du bois, donc on peut faire des bâtiments performants, donc des matériaux locaux, une durabilité des bâtiments, donc en les protégeant contre la pluie notamment, hein, on voit actuellement, on a eu une année 2021 extrêmement pluvieuse et on voit beaucoup de bâtiments qui sont déjà noircis, ouais. Les façades sont noircies par la pluie, et notre objectif c'est aussi de convaincre tout le monde qu'une bonne protection solaire des bâtiments fait aussi une bonne protection contre la pluie, pour que les bâtiments coûtent moins cher finalement à l'exploitation via les consommations énergétiques, mais également via l'entretien, par exemple repeindre les façades très concrètement. On a des bâtiments sur lesquels il faut repeindre les façades tous les 3-4 ans, alors qu'on est capable, en utilisant des bons procédés, de vraiment protéger ces bâtiments contre la pluie et du coup contre les dégradations un peu trop rapides
des façades.
Des façades.
Et enfin, le Conseil énergie climat, vous pouvez nous dire en quelques mots, ça fait partie des prestations que vous proposez.
Sur tout ce qui est vraiment planification en termes de climat, c'est vrai que là on est plus sur un volet conseil, donc on a accompagné la région à l'époque, maintenant la CTG, mais autour de du pilotage au niveau du schéma régional climat, air, énergie, et l'animation des débats sur la transition énergétique plus globalement. Mais on s'intéresse au-delà de la question bâtiment patrimoine du client, on va dire. On essaie de tracer un peu la feuille de route pour les 5, 10, 15 prochaines années d'une entreprise ou d'une collectivité pour réduire son impact en termes de gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'expertise énergie-climat, parce que l'énergie, ça fait consommer entre guillemets du carburant, et du coup ça fait des gaz à effet de serre qui impactent en termes de changement climatique. Changement climatique d'ailleurs qui va impacter de plus en plus les Guyanais, que ce soit sur la ressource de poissons halieutiques, sur l'état des forêts. Donc on va avoir une augmentation progressive du niveau de la mer et des températures ressenties en Guyane qu'il faut essayer de juguler au maximum.
Mais bon, ça dépend pas que des Guyanais.
Ça dépend pas que des Guyanais, mais on a
un grand voisin à côté. qui ne fait pas non plus beaucoup d'efforts. Donc, il y a le Guyana, il y a le Suriname.
Tout à fait, hein, tout à fait. Mais je pense qu'on est un peu le pilote et on le souhaite devenir le pilote mondial. Enfin, on l'est déjà. Il faut qu'on soit un peu plus confiant et fier de nous sur le travail déjà mené, que ce soit en termes de mise en place de labels qualité environnementale, donc la qualité environnementale amazonienne, que ce soit le déploiement de l'efficacité. On est champion outre-mer et même français de l'efficacité, donc tout ce qui est isolation des bâtiments, l'eau chaude, solaire, etc., qui se développe très très vite depuis quelques années, chez les particuliers encore une fois et chez les professionnels, et le développement des énergies renouvelables qui prend une part de plus en plus importante, sachant qu'on est déjà à 70% d'énergies renouvelables et il nous reste encore ce chemin à faire jusqu'à 2030.
Malgré tous ces efforts que nous fournissons, on réalise que nous sommes parfois qu'une goutte d'eau dans un océan.
Bah, on est là pour montrer l'exemple. Je dirais qu'on est un territoire exemplaire qui peut montrer la voie sur l'ensemble des régions françaises et des pays au niveau international.
Ouais, la prise de conscience doit être mondiale.
Tout à fait.
Clairement.
Mais si l'ensemble des pays du monde ont un exemple qui devrait être la Guyane, on va montrer que ça peut marcher, que c'est économiquement rentable, socialement rentable et environnementalement rentable.
Alors, on avait cru comprendre au début de cet entretien que vous faisiez également de la formation, des ateliers également que vous mettiez en place.
Alors,
destiné au grand public, c'est ça?
Alors, c'est au niveau, donc, bon, c'est souvent au niveau de l'interprofession du Génergue, hein, que l'ensemble.
Alors, on navigue entre l'interpro et énergie.
Une structure personnelle qui est Ingeco Énergie, qui est un bureau d'études indépendant, et puis le Génergue, qui est le groupement des entreprises énergie renouvelable, avec lequel on mène énormément d'actions de communication, que ce soit radio, mais également, par exemple, ici sur le site de l'université, pour informer donc les étudiants, les professeurs également, l'ensemble de la population sur les possibilités et l'intérêt d'avoir une telle démarche. Alors au niveau d'Ingeco Énergie, on travaille également effectivement sur le volet formation parce qu'on a besoin d'accompagner tous ces nouveaux métiers. Donc on a une activité d'organisme de formation avec des partenaires sur les thématiques solaires ou thermiques du bâtiment, qualité environnementale encore une fois. Et on a aussi un gros travail, alors c'est vrai pour Ingeco Énergie, mais c'est vrai pour l'ensemble des entreprises. On accueille beaucoup, on a un gros partenariat avec l'université qui a mis en place depuis quelques années une licence professionnelle développement durable et énergie, notamment dans le bâtiment, et un master 1 et un master 2 énergie qui nous permet d'avoir des jeunes guyanais. Donc actuellement, il y a par exemple un apprenti qui est sur cette filière-là et qui, l'objectif, c'est de l'accompagner et puis ses confrères aussi.
Il y a des débouchés en Guyane
Il y a énormément de débouchés parce qu'encore une fois c'est une filière naissante, hein, on va dire, donc il y a énormément de débouchés pour les jeunes Guyanais, et c'est vrai dans tous les domaines finalement, hein, parce qu'on touche des plombiers installateurs de chauffe-eau solaire, des électriciens installateurs de panneaux solaires, des climaticiens, des gens qui travaillent plus dans le bâtiment, le bois, l'isolation, etc. Et après tous les métiers de la production propre d'énergie renouvelable, donc c'est plus des métiers vraiment industriels, comme une usine biomasse, voilà, c'est des métiers d'électrotechniciens, de mécaniciens, etc.
Et les gens qui installent ces chauffe-eau, ce ne sont pas ceux qui sortent des masters?
Par contre, les gens qui sortent du master peuvent être amenés à piloter des équipes ou à diriger des entreprises à court ou moyen terme dans ces domaines-là.
Très bien. Quels sont vos projets, aussi bien pour Ingeco Énergie que pour l'Interpro Génergue?
C'est continuer à sensibiliser sur cette démarche globale qui est peut-être des fois un peu compliquée à comprendre, mais vraiment l'objectif c'est d'analyser sur une première phase diagnostique qui est primordiale pour la compréhension de chacun, diagnostiquer, vraiment faire un état des lieux du patrimoine du client et de les accompagner vers cette démarche d'efficacité puis de production d'énergie renouvelable en intégrant de plus en plus la question du transport. Donc il y a un certain nombre de collectivités pour lesquelles on travaille, la CACL, la CCL, pour citer que eux, mais voilà, l'objectif, ils ont des patrimoines extrêmement grands, donc bâtiment par bâtiment, année par année, déployer un plan d'action. Encore une fois, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est sur il faut bien comprendre le mot transition énergétique, on est sur une transition, il faut pas oublier ce mot-là, donc ça va pas venir d'un coup. Souvent on nous dit, mais pourquoi on n'installe pas une centrale nucléaire, on a entendu ça récemment, pourquoi on fait pas cette solution-là, un type d'énergie. Non, on va être sur un bouquet qui va répondre à la question de l'efficacité et un bouquet de type d'énergie sur l'énergie renouvelable. Donc la Guyane, à terme, ça sera du solaire photovoltaïque, du solaire thermique, de la biomasse, de l'hydroélectricité. Voilà, tabler sur l'ensemble des possibilités que le territoire nous offre en termes de ressources et de mieux les utiliser. Donc voilà, c'est vraiment le plan d'action, il est là. Hein, c'est déployer, accompagner sur le long terme les entreprises et les collectivités autour de cette démarche-là.
Très bien, nous envoyons bien évidemment nos auditeurs vers votre site internet pour avoir davantage de renseignements. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Perrault, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le gérant de Ingeco Énergie et vice-président de Interpro Genève.
Merci. Merci à vous.